Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de retrouver cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec un numéro dont le dossier est consacré à l'Occident, une notion complexe que nous essayons de comprendre et de définir dans ce numéro de septembre-octobre, un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et que vous pouvez également retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Cette semaine, nous allons partir à Rome, dans la Rome antique, pour essayer de donner quelques grands axes, quelques grandes idées de la Rome antique, dont on croit toujours connaître beaucoup Rome, et en fait on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à perfectionner dans la connaissance romaine. Alors nous allons en parler avec mon invité Dimitri Tillois d'Ambrosi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes docteur en histoire, auteur de plusieurs ouvrages sur la Rome antique, notamment un ouvrage sur la manière de manger dans la Rome antique, c'était l'Empire romain par le menu. Et puis, vous avez aussi contribué à un livre sur Pompéi, dont j'ai reçu Pascal Charvet il y a 3 semaines, qui a coordonné l'ouvrage, c'était aux éditions Bouquin, et vous avez rédigé le chapitre consacré à l'alimentation. Mais je vous ai invité pour un autre livre qui vient de paraître chez Perrin, dans la collection Vérités et légendes, et cette fois-ci donc un Vérité et légendes autour de la Rome antique. Alors c'est la collection veut qu'il y ait une trentaine de questions qui sont posées, et l'auteur bien montre en quoi c'est présupposé ou ces questions sont souvent un petit peu fausses, un peu mal connues, pour faire un point aussi des recherches historiographique. Première question, Dimitri Tillois d'Ambrosi, quand on parle de la Rome antique, on peut se dire qu'on connaît déjà tout. Enfin, ça fait quand même plusieurs siècles maintenant que les historiens travaillent, on connaît tous les grands auteurs, on a découvert beaucoup de choses dans les travaux archéologiques. Est-ce qu'un historien du 21e siècle, des années 2020 du 21e siècle, peut encore découvrir des choses, ou est-ce qu'on est condamné à répéter ce qui a été dit par nos prédécesseurs?
Alors, l'historien de l'Antiquité est un enquêteur qui doit tenir compte de tous les types de sources. Alors, effectivement, pour les textes qu'on peut qualifier de littéraires, écrits par des historiens de l'Antiquité classique, il y a peu de chances que l'on découvre de nouvelles œuvres si ce ne sont que des fragments. En revanche, de manière plus régulière, on découvre des inscriptions, donc ce qui relève du champ de l'épigraphie, et puis des vestiges archéologiques qui viennent compléter, nourrir notre corpus documentaire pour étudier l'Antiquité romaine, et qui permet vraiment d'affiner notre connaissance et l'analyse des sociétés, du pouvoir, notamment, par exemple, pour la vie des cités ou pour le pouvoir impérial lui-même. Donc l'archéologie, quant à elle, permet d'approcher de façon de plus en plus fine le quotidien des hommes et des femmes de l'Empire romain.
Alors, l'archéologie, vous l'avez dit, puis il y a eu des grandes avancées techniques qui permettent aussi de mieux découvrir certaines couleurs, certaines traces, notamment vous qui travaillez sur l'alimentation, des traces de nourriture qui peuvent être retrouvées. Donc ça dit aussi beaucoup sur la manière dont les Romains vivaient.
Oui, alors on pense évidemment aux fouilles de Pompéi et notamment aux grands chantiers de fouilles de la région 5 qui ont lieu autour de 2018-2019 et qui ont permis effectivement, alors, d'une part, de découvrir des quartiers entiers de la ville, et puis également de déployer des nouvelles technologies au service de l'analyse de ces vestiges. Alors, il peut s'agir notamment, pour ce qui relève de l'anthropologie et de l'étude des ossements humains, de nouveaux scanners, de méthodes d'analyse chimique également, pour mieux connaître les régimes alimentaires, donc une manière aussi de mieux connaître le vécu et notamment le régime alimentaire et donc l'état de santé aussi des populations antiques. Alors ensuite, effectivement, toutes les nouvelles technologies déployées alors sur d'autres sites archéologiques, on peut penser au LIDAR par exemple, qui est une technique qui permet donc de déceler des vestiges dans des zones avec un couvert forestier assez important, permet de nouvelles approches et effectivement de réaliser de nouvelles découvertes. Je mentionne dans l'ouvrage, dans le chapitre qui porte sur les frontières, des découvertes de sites archéologiques, de sites légionnaires plus précisément, de la péninsule arabique, et qui ont été détectés grâce à des images satellites dans des sites relativement isolés, et qui permettent ainsi de mieux étudier la conquête de ce territoire sous le règne de Trajan au tout début du IIe siècle après Jésus-Christ.
Alors, puisque nous sommes sur les frontières, eh bien, nous allons y rester. On connaît le nom, le fameux nom de Limes, qui a d'ailleurs donné le nom à une revue de géopolitique italienne avec laquelle Gonflis travaille régulièrement. Cette zone défensive, on en a parfois une image un peu erronée. On imagine ça une sorte de mur de Berlin, de zone vraiment très bien protégée, très bien gardée. Or, ce n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt quelque chose en profondeur et une méthode de protection qui est finalement assez minimale.
Oui, alors c'est une frontière aussi qui est très pragmatique, c'est-à-dire que les Romains s'adaptent à la fois aux réalités stratégiques, géopolitiques locales et puis aux réalités physiques également du terrain. Alors, quand on pense aux Limes, on pense bien souvent directement au mur d'Adrien et évidemment, toutes les frontières sont loin d'être entièrement protégées et ceintes d'un mur aussi imposant que cet édifice construit au IIe siècle. En réalité, durant par exemple une bonne partie du 1er siècle, il n'y a pas de structure en dur, des murs, des palissades, qui viennent plutôt, à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, protéger l'Empire. Donc, ce Limes, c'est avant tout un réseau défensif, un réseau de fortins plus petits, où stationnent les détachements de légionnaires. Ça, c'est un premier point. Et puis, vous l'avez effectivement souligné, il s'agit plus d'une zone tampon, en quelque sorte, que véritablement d'une ligne infranchissable, et une zone tampon qui n'empêche en rien les échanges de part et d'autre de la frontière de l'Empire. On le voit bien, par exemple, avec... en Angleterre, hein, qui est conquise donc à l'époque de Claude, hein, dans les années 40 après Jésus-Christ, des traces de céramique romaine au fin fond de l'Écosse, donc ce qui montre bien une certaine perméabilité de cette frontière. Et puis, ce terme de limes, hein, il faut y revenir également, on a trop tendance parfois à le traduire directement par frontière et au sens de frontière fermée. En réalité, c'est un terme qui, du point de vue étymologique, désigne avant tout une route, et notamment une route militaire, une rocade militaire sur laquelle circulent les soldats. Et effectivement, si on reprend le cas de la province de Bretagne, donc l'Angleterre actuelle, avant que ne soit érigé le mur d'Adrien, il y avait donc un réseau de forts et également une grande route d'est en ouest sur laquelle pouvaient circuler les soldats. Donc c'est aussi une zone de communication importante pour les hommes qui servent Rome.
Parmi les autres vérités et légendes romaines, il y a aussi le fait que quand on parle de Rome, de la Rome antique, souvent on aborde le premier siècle. Alors il y a César, il y a Auguste. Il y a les 12 Césars de Suétone, et puis au fur et à mesure, on a l'impression que l'histoire s'étiole, et arrivé jusqu'à Dioclétien, Constantin, c'est déjà un petit peu la limite, et on oublie complètement le 4e, voire 5e siècle, qu'on a longtemps appelé d'ailleurs du nom d'Antiquité tardive, qui n'est pas d'ailleurs un très, très joli terme. Or, aujourd'hui, là aussi, la recherche historique a montré que c'est une période qui est très riche. Alors certes, il y a des problèmes... d'invasion, on y reviendra, mais enfin c'est aussi une période très riche avec beaucoup d'évolutions culturelles, politiques et autres.
Oui, tout à fait, c'est une période qui a longtemps été dépréciée. Alors on parle également, parfois, heureusement, on commence à abandonner l'expression de bas-empire, ce qui a longtemps été employé, y compris dans des manuels universitaires. Donc on préfère l'expression, voilà, antiquité tardive. Mais c'est une période qui ne doit pas être considérée simplement comme une période de transition, mais encore moins comme une période de déclin, et l'historien sérieux doit se garder évidemment de définir telle ou telle période historique comme une période de déclin. C'est une période à part entière, avec effectivement des recompositions, plus que un affaiblissement de la société, du pouvoir également. Alors, en termes de pouvoir, justement, déjà, si on remonte au IIIe siècle, qu'on présente souvent comme une période de crise, il faut bien relever le fait que certains empereurs ont permis, justement, par leur action volontaire, le maintien à la fois du pouvoir impérial, la défense de l'Empire, et là, je pense notamment à l'empereur Aurélien. Alors ensuite, au 4e, 5e siècle, on a effectivement des mutations importantes qui se produisent avec la grande réforme de Dioclétien qui met en place le système de la tétrarchie, bon, qui finalement n'a pas duré si longtemps, hein, au bout de deux générations, qui a été qui tombe en désuétude avec la prise de pouvoir de façon monopole par Constantin. Mais c'est une période qui est une période plutôt de recomposition. Alors j'insiste aussi sur la différence entre l'Orient et l'Occident. En Orient, notamment au 5e et même au 6e siècle, en fait, si on dépasse les bornes traditionnelles, en Orient, les cités de Syrie, par exemple, d'Asie mineure, connaissent une prospérité certaine et qui s'inscrit en pleine continuité avec la prospérité du Haut Empire. Et toujours dans l'Orient, justement, on a de grands auteurs, de grands rhéteurs, comme Libanios, par exemple, qui écrit en grec à l'époque de l'empereur Julien, et qui manifeste, vraiment un certain essor, une véritable un épanouissement des lettres et de la culture à cette époque. Et l'époque où coexiste une culture chrétienne et une culture païenne.
Vous parlez du rôle de l'empereur. Quel est son pouvoir réel? Parce qu'on imagine bien qu'un empire aussi vaste qui fait tout le bassin méditerranéen, une époque où les communications sont lentes, entre le moment où l'empereur donne un ordre à Rome et le moment où c'est appliqué dans une province syrienne ou bien sur le bord du Danube, il s'écoule beaucoup de temps. Donc, est-ce que l'empereur est un homme aussi puissant que ça?
Alors, il y a évidemment un décalage aussi entre l'image que le pouvoir impérial veut donner, avec effectivement un empereur assimilé aux dieux, alors pas non plus considéré à l'égal des dieux, au risque évidemment d'être considéré comme un tyran ou un monarque hellénistique, ce que les Romains détestent, mais voilà, une image de puissance. En réalité, il faut bien voir que l'empereur romain n'est pas un monarque absolu qui contrôle chaque aspect de la vie des cités de l'Empire. En réalité, l'Empire romain repose sur une délégation de pouvoir, sur une véritable autonomie qui s'exerce à l'échelle locale par les cités. C'est-à-dire que lorsque Rome arrive en Orient, par exemple, elle trouve des cités qui sont constituées en entités politiques, que ce soit Athènes, Éphèse, Pergame, avec leurs institutions, avec leurs lois, et qui fonctionnent très bien, avec leurs magistrats qui s'occupent justement des finances, des affaires courantes. Donc, ces cités, évidemment, désormais sont sous la tutelle de Rome. Elles rendent des comptes, alors d'abord en premier lieu, au gouverneur de la province, d'Asie, par exemple, si on a Éphèse, et lequel gouverneur rend compte, évidemment, ensuite à l'empereur. Il est les yeux et les oreilles de l'empereur dans les provinces. Mais au quotidien, finalement, l'ingérence de Rome dans les affaires des cités est relativement faible. Rome intervient vraiment en cas de difficulté pour aider une cité à se relever en cas de trouble. Et puis, bon, situation plus exceptionnelle, il peut y avoir aussi des révoltes de gouverneurs. On pense à Vindex, par exemple, à la fin du règne de Néron, donc en Gaule lyonnaise, où là, le pouvoir, évidemment, va tenter de reprendre les choses en main. Mais en tout cas, il y a une délégation du pouvoir. Alors, ce qui est à la fois une forme de pacte, on pourrait dire, c'est-à-dire que les élites locales trouvent leur compte dans le fait de garder une prééminence, elles servent Rome, Rome leur permet de conserver leur position, et puis pour Rome, c'est aussi un moyen, finalement, d'économiser, évidemment, des hommes, des moyens, une administration coûteuse, et donc de gérer plus efficacement l'Empire, et en étant au plus près des préoccupations et des besoins des hommes. Alors, cela étant, l'empereur peut être informé assez rapidement de ce qui se passe dans l'Empire, même si évidemment cela peut prendre des jours, grâce à un système de poste impérial qu'Auguste avait mis en place, qu'on appelle le cursus publicus, ou alors la veiculatio, et qui permet, en quelques jours, 3-4 jours par exemple, à un courrier d'arriver de la Germanie vers Rome. Mais alors, effectivement, après, il y a toujours un temps de latence dans la réaction et la réponse apportée par l'empereur, mais c'est un empire qui repose aussi sur le fait que l'empereur est bien informé et qui peut réagir assez efficacement.
Comment s'opère la romanisation? On est toujours surpris quand on va en Tunisie, par exemple, ou vers les ruines en Algérie, ou quand on va en Syrie, de voir des villes qui rappellent Rome dans leur architecture, dans le plan urbanistique, des inscriptions également en latin. Est-ce que ça s'est fait par une imposition, ou est-ce que ce sont les populations locales qui se sont assimilées d'elles-mêmes en voulant copier le modèle romain?
Alors, il faudrait tout d'abord revenir sur ce terme de romanisation, alors qui est couramment employé encore et qui est assez commode finalement pour définir ce processus de diffusion de la culture romaine, mais c'est un terme qui est de plus en plus discuté par les historiens, dans la mesure où justement il supposerait une action volontaire de la part de Rome pour diffuser, voire même imposer sa culture, son architecture, son mode de vie, sa langue, ses dieux, etc. On a tendance parfois en fait à faire un parallèle, à établir un parallèle avec peut-être la colonisation du 19e siècle, où effectivement il y a eu une action volontaire des Européens pour imposer leur culture, la diffuser. Alors, pour Rome, c'est beaucoup moins vrai, puisque, en fait, c'est plus un modèle, finalement, qui, en quelque sorte, se propose aux élites locales avec l'arrivée de Rome. Disons que les élites locales veulent imiter le mode de vie du vainqueur. On le voit par l'habitat, on le voit par l'habillement, l'obtention de la citoyenneté, donc c'est aussi une réalité politique qui crée une forme d'émulation, c'est-à-dire que le service de Rome permet, eh bien, d'œuvrer pour le prestige de sa communauté civique, et puis pour garantir une certaine position. Et puis, le reste de la population ensuite, eh bien, est évidemment séduite par ce mode de vie, ces divertissements qui se développent. Alors, il faut distinguer une fois de plus l'Orient et l'Occident. Lorsque Rome arrive en Orient, il y a évidemment une tradition civique très ancienne, des villes qui sont bien équipées en établissements publics, de théâtre par exemple. En Orient, en revanche, que l'on voit, et là c'est un signe de romanité, on pourrait dire de romanisation, c'est la diffusion de nouveaux spectacles, comme les combats de gladiateurs par exemple, qui n'existaient pas auparavant, et qui remportent un assez grand succès dans le monde grec. Donc là, il y a une forme de fascination, on pourrait dire, pour la culture du vainqueur. En Occident, en revanche, le modèle de la cité, la civitas en latin, n'existe pas. Si on prend le cas de la Gaule, les différents peuples est établi en tribus. Donc Rome va transformer ses tribus en système de cité, en système politique qui correspond à ce que l'on peut trouver à Rome et en Italie. Et donc ensuite, le chef-lieu urbain, qui va être la capitale en quelque sorte du territoire civique, va être un pôle de romanité où vont se développer des infrastructures, des édifices de spectacles, de bains, religieux bien évidemment aussi, qui vont constituer des relais de la romanité, en quelque sorte. Après, il faut aussi distinguer évidemment les espaces urbains, les grandes villes provinciales, les grandes capitales provinciales ou des agglomérations secondaires, des zones rurales évidemment qui sont beaucoup moins touchées par la romanisation. Ensuite, un autre point, c'est que cette romanisation, elle est plus ou moins complète. On peut l'apercevoir par le mode de vie, par les divertissements, mais par exemple, au niveau de la langue, bien souvent, les langues locales perdurent. On le voit aussi bien en Orient qu'en Occident, par exemple. Le domaine religieux aussi est assez révélateur en la matière. Les dieux de Rome se diffusent, cela est certain, mais les dieux locaux, que ce soit en Occident ou en Orient, persistent et sont toujours vénérés, y compris à une date assez avancée du Haut Empire, et même un petit peu après. En revanche, bien évidemment, il y a des ferments d'unité. Au niveau, bon, on l'a vu, du style de vie, des divertissements, et puis le culte impérial, les honneurs religieux rendus à l'empereur et à sa famille, sont vraiment un ferment d'unité, de cohésion pour tous les citoyens et habitants de l'Empire.
Vous évoquiez les dieux. Alors, on pense évidemment aux dieux romains qui dérivent des Grecs, Zeus, etc. Mais il y a eu aussi très tôt une diffusion des cultes orientaux, notamment le culte d'Isis. D'ailleurs, c'est très bien montré dans l'ouvrage sur Pompéi. Il y a un chapitre sur Pompéi comme ville égyptienne. Le culte de Mithra également, le christianisme aussi qui vient d'Orient. On a l'impression que d'un point de vue spirituel, l'histoire de Rome, c'est une longue histoire de récupération des religions orientales et d'assimilation par l'Occident des religions orientales.
Oui, alors c'est un phénomène qu'on observe depuis le milieu de la République. On a cité Isis, effectivement. On pourrait citer aussi la déesse Cybèle, qui est introduite à Rome au milieu de la République romaine, et qui est une déesse mère et qui connaît un grand succès, au point qu'elle est associée justement aux sacrifices et aux supplications effectuées envers les dieux pour protéger l'empereur et pour assurer le salut de l'Empire. Le culte d'Isis, on le voit à Pompéi, on le voit à Rome également. Sur le champ de Mars, Isis dispose d'un grand sanctuaire, donc il y a véritablement une appropriation de ces cultes orientaux. Alors, encore aujourd'hui, il y a un grand débat pour savoir est-ce que l'introduction de cultes orientaux, et on pense aussi à Mithra, alors là plutôt à l'époque impériale, notamment au 3e siècle où c'est un culte qui connaît un très grand essor, est-ce que cela répond à une quête, une forme de, un besoin de spiritualité peut-être qui serait absente des cultes traditionnels romains? C'est un débat qui est discuté, mais c'est une question, voilà, en tout cas qui est posée. Alors, la religion romaine traditionnelle est une religion très ritualiste où le geste, le sacrifice sont vraiment le fondement du culte. Ils font la croyance en quelque sorte, pour reprendre la formule de John Scheid. Et voilà, on suppose parfois que c'est une religion où finalement il n'y a aucune sensibilité. Bon, il y a quand même une théologie sous-jacente à ces différents rites. Alors après, il est vrai que on voit notamment au 2e et 3e siècle, le culte de Mithra en particulier semble répondre quand même à des préoccupations d'ordre métaphysique, notamment puisque Mithra, c'est un culte qui invite aussi à une réflexion, une méditation sur le cycle de la vie et de la mort. Donc c'est possiblement voilà, un des éléments qui séduit les adeptes de Mithra dans le monde des militaires, dans le monde des marchands. Et effectivement, ces dieux circulent aussi avec à la fois les troupes et les marchands et suivent donc les circuits commerciaux et les circuits poursuivis par les hommes de l'Empire qui traversent donc les routes et les provinces d'un bout à l'autre.
Quels sont les rapports entretenus par Rome et les peuples hors de l'Empire, je pense notamment les Parthes par exemple, les Germains, est-ce qu'on a des échanges économiques, échanges intellectuels, ou est-ce que ce sont toujours uniquement des relations de conflictualité?
Alors pas uniquement des relations de conflictualité, si on pense aux Parthes justement, alors souvent présentés comme un des ennemis héréditaires de Rome, donc un empire qui, je le rappelle, s'étend sur la Mésopotamie et l'Iran actuel, qui est vraiment le grand rival de Rome, que l'on songe notamment à la grande défaite rencontrée par les Romains à Carre, en 53 avant Jésus-Christ, où le général Crassus est exécuté par les Parthes de façon assez cruelle. Donc on a souvent cette image d'un affrontement voilà très manichéen, en quelque sorte. En réalité, les négociations sont possibles. On le voit assez régulièrement dans l'histoire de Rome. Parthes et Romains se disputent notamment l'influence sur un royaume qui se situe dans la région, qui est le royaume d'Arménie, alors, qui est plus grand que l'Arménie actuelle que l'on connaît, et qui est ce que l'on appelle en fait un royaume client, c'est-à-dire avec un roi à sa tête, mais voilà, qui va faire allégeance en quelque sorte à Rome et servir les intérêts de Rome. Et donc, un des grands enjeux de cette rivalité entre Romains et Parthes, c'est justement eh bien, d'obtenir la fidélité de ce roi arménien. Alors après, tout change au IIIe siècle après Jésus-Christ, hein, dans les années 230 notamment, puisque les Parthes sont renversés au profit d'une nouvelle dynastie perse qui sont les Sassanides, et qui eux, en revanche, hein, se montrent beaucoup plus offensifs envers Rome, beaucoup plus menaçants, et cherchent vraiment voilà, à pénétrer dans l'Empire romain. En tout cas, avec les Parthes, hein, il y a beaucoup d'affrontements, c'est certain. Et puis Trajan, évidemment, qui aussi mène à de grandes conquêtes en Mésopotamie durant son règne au IIe siècle. Mais en tout cas, les négociations sont possibles. Alors, en revanche, avec les Germains, là, c'est plus compliqué, puisque Auguste, hein, durant son règne, avait cherché à établir une présence romaine entre le Rhin et l'Est de la Germanie. Sauf que, peu de temps après le début de cette colonisation romaine, en fait, hein, avec le désastre de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, les Romains refluent au niveau de la frontière du Rhin et abandonnent hein, tout espoir de s'établir définitivement au-delà de cette frontière. Même si sous Domitien, un petit peu plus tard, il y aura de nouvelles expéditions menées dans les champs des Cumates, hein, dans le sud-ouest de la Germanie. Mais voilà, ça restera finalement un échec hein, de l'expansion romaine. Alors après, il faut aussi prendre en compte des principautés, je pense notamment en Afrique, dans la péninsule arabique, où il y a des liens pour le commerce aussi qui sont importants. Notamment dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, en fait, qui correspond au Yémen actuel. Là, il y a des contacts entre Romains et peuples locaux, puisqu'il y a évidemment des produits qui intéressent beaucoup les Romains, les gommes, les encens, des parfums précieux. Et puis, c'est aussi une route, évidemment, qui mène bien au-delà, vers le monde indien, via la mer Rouge et l'océan Indien.
On l'appelle l'Arabie heureuse parce qu'il y a des montagnes, une suite qui pleut beaucoup, donc c'est beaucoup plus irrigué que le reste de l'Arabie. Donc forcément, vous l'avez dit, il y a plus de plantes, notamment l'encens et la gomme arabique qui vient de là aussi. Vous évoquez l'Inde. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des liens commerciaux entre l'Empire romain et l'Inde ?
Oui, alors ça, c'est attesté par... les textes en parlent un petit peu, et l'archéologie montre aussi, effectivement, que certains produits venant d'Inde, du Sri Lanka, on a des traces de poivre, hein, par exemple, qui viennent du Sri Lanka, qui ont été retrouvées à Pompéi, montrent qu'il y a des échanges assez réguliers. Alors, ce ne sont pas évidemment des flux intensifs hein, chaque jour, mais régulièrement, des produits, alors, notamment en épices. Hein, alors, évidemment, aussi des produits qui peuvent se conserver sur une longue distance, donc les épices sont assez appropriées. Mais il y a en tout cas des échanges assez importants. Et on a des traces hein, de produits romains, d'amphores, de vins romains, même jusqu'en Inde. Donc, ça montre bien qu'il y a des liens et des contacts entre ces deux mondes. On sait également, désormais c'est bien connu, que sous le règne de Marc Aurèle, une ambassade chinoise est arrivée jusqu'à Rome. Il y a eu des ambassades entre ces deux mondes, hein, aussi lointains. Mais ça montre voilà, qu'il y a des contacts hein, entre plusieurs empires à l'échelle mondiale. En quelque sorte.
Alexandre a bien été jusqu'en Inde, donc c'est vrai que les échanges ont pu continuer après.
Oui, les routes de la soie ont perduré. Alors, en cela, justement, la cité caravanière de Palmyre, alors, qui se trouve dans l'Empire romain, mais vraiment qui est aussi une ville tournée vers le monde Parthe hein, et vers l'Orient, c'est vraiment une plaque tournante du commerce eurasiatique, on peut dire.
Alors, parmi les autres légendes de la Rome antique, il y a le fait que Rome est la capitale de l'Empire. Ça n'a pas toujours été le cas. D'abord, il y a eu, à un moment donné, deux capitales, Rome et Constantinople. Et même Rome s'est vue déplacée. Ça a été Milan, c'était Ravenne. En tout cas, la capitale a changé aussi.
Oui, alors ça, c'est plutôt la fin de l'Empire, effectivement, dans les derniers siècles, hein, où les empereurs sont de plus en plus absents de Rome. Et stationne davantage dans des villes proches des frontières. Alors Milan, Ravenne, effectivement, des villes également de Gaule, hein, par exemple la ville d'Arles, d'Autun, des villes de Germanie comme Cologne, accueillent effectivement, ou Trèves en particulier, accueillent assez régulièrement les empereurs qui prennent leur quartier d'hiver dans ces villes, souvent aussi pour organiser la défense de l'Empire et mener les campagnes hein, contre les peuples germaniques qui posent problème à cette époque. Et en Orient, donc, les empereurs séjournent bon, évidemment à Constantinople. La cité d'Antioche aussi est importante parce que c'est vraiment la grande base arrière, souvent pour mener des expéditions contre les Parthes, puis ensuite contre les Perses sassanides.
Quel rôle a joué l'Égypte dans l'histoire de l'Empire romain ? Alors là aussi, on a en tête les amours entre César et Cléopâtre, Adrien qui se rend en Égypte ou Antinous. Meurt dans le Nil, mais au-delà des aspects romantiques ou amoureux, en quoi l'Égypte était-elle importante dans l'Empire romain ?
Alors l'Égypte est une province absolument stratégique et même vitale pour Rome, puisque Après la défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine, donc l'Égypte, qui jusque-là était un royaume, hein, c'était le dernier des royaumes hellénistiques, devient une province romaine avec à sa tête un chevalier qui est nommé préfet. Et ce qui est intéressant, c'est une province qui a une situation particulière. Il est interdit pour les sénateurs d'y pénétrer sans l'accord de l'empereur. Pourquoi ? Parce que l'empereur tient absolument à garder un contrôle complet sur ce territoire et éviter qu'un sénateur ne cherche à y fomenter une opposition, voire une révolte contre l'empereur. Et la raison, en fait, tient au blé. C'est vraiment la province frumentaire pour Rome. C'est le grenier à blé, en quelque sorte, hein, de l'Empire, puisque Auguste, durant son règne, met en place également ce qu'on appelle la préfecture de l'Annone, qui est un service de ravitaillement, d'achat en masse, en très grande quantité de blé provenant d'Égypte, et qui est ensuite donc stocké à Rome et distribué, donc notamment lors de ce qu'on appelle les distributions frumentaires, aux citoyens qui sont inscrits sur des listes, hein, et qui peuvent recevoir chaque mois une ration de blé. Donc l'Égypte vraiment revêt cette importance, hein, par rapport à l'approvisionnement en blé. Ensuite, c'est une province qui globalement est une province quand même assez riche. Alors, c'est une province qui est tout à fait intéressante aussi, puisque c'est une province où la romanisation est très superficielle. Bon, à Alexandrie, on a le préfet d'Égypte avec son administration, mais c'est une province qui garde vraiment son caractère hellénistique et même son caractère égyptien, surtout dans les zones un petit peu plus rurales. On le voit dans l'administration également, donc où coexistent plusieurs communautés. Alors, Alexandrie, on a aussi une communauté juive, hein, qui est assez importante. Et donc, Rome, parfois aussi, fait face à des tensions dans cette province. C'est le cas à la fin du règne de Trajan, où justement la coexistence entre ces communautés peut parfois être un petit peu compliquée.
C'est une ville, enfin, Alexandrie est aussi une ville intellectuelle majeure, avec de grands penseurs, d'ailleurs, tout au long de l'histoire romaine. Et au IIIe siècle, on a l'hérésie arienne. Arius est un prêtre d'Alexandrie, donc ça montre aussi qu'il y a un dynamisme intellectuel dans cette cité.
Oui, alors on pourrait citer Carthage aussi. On voit bien que l'Afrique du Nord, dans l'histoire de l'Église, joue un rôle très important. Et effectivement, ça, c'est un grand laboratoire de réflexion théologique, hein. Alors, à Alexandrie, on le voit effectivement avec de grands évêques qui se succèdent, hein. On pense notamment à l'évêque Cyprien, par exemple, Cyril, par exemple. Et oui, Cyprien, donc,
de Carthage,
voilà, qui joue un rôle effectivement dans la formulation de la pensée chrétienne, et puis aussi dans la lutte contre les hérésies. Et on voit effectivement que l'Égypte, hein, est propice, et l'Afrique aussi, à la diffusion de ces hérésies. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines de ces hérésies se sont développées justement au gré des persécutions. Et on peut penser notamment avec la crise des Lapsis. Donc, les Lapsis, hein, ce sont ces chrétiens qui ont accepté de sacrifier ou qui se sont débrouillés pour un certificat de participation aux honneurs religieux rendus à l'empereur. Et donc, toute la question de savoir, une fois les crises passées, que fait-on de ces chrétiens? Et donc, justement, l'Église d'Afrique, alors, notamment de Carthage, hein, est vraiment déchirée par la crise, hein, ouverte, alors, notamment à ce qu'on appelle le donatisme, en fait, hein. Doit-on leur pardonner? Au contraire, doit-on se montrer intransigeant?
Le donatisme, donc, c'est une personne qui s'appelle Donat,
oui,
qui est à l'origine de cette crise. Et c'est une crise religieuse, mais c'est aussi carrément une sécession. Enfin, il y a une,
oui,
crise sociale, une crise...
Oui, c'est une crise de discipline au sein de l'Église, en effet, de discipline et d'ordre, voilà, sur la ligne à tenir, en fait, hein, pour les chrétiens d'Afrique du Nord et aussi ailleurs dans l'Empire.
Alors, restons sur Carthage, parce que ça a été l'objet d'une grande guerre entre Rome et Carthage, évidemment, pour ces deux empires qui se sont affrontés. Mais dans la suite de l'histoire de Rome, Carthage est aussi un lieu production céréalière importante. Et puis, on l'a dit, il y a Saint Cyprien de Carthage, donc grand intellectuel, Saint Augustin, qui n'est pas très loin non plus, à Hippone. Donc, cette région de l'Empire a aussi fourni matière à intellectuels et à penseurs de premier plan.
Oui, alors il faut rappeler aussi que c'est une... Alors, ce qu'on appelle l'Afrique proconsulaire, en fait, hein, correspond effectivement à une grande partie de la Tunisie actuelle. On déborde un petit peu sur l'Algérie également. Déjà, c'est une province qui est très urbanisée. On imagine, hein, parfois quelques cités sur les côtes et puis ensuite une province désertique. C'est une province déjà qui est beaucoup plus fertile qu'elle ne l'est aujourd'hui, un territoire beaucoup plus fertile, et vous l'avez rappelé effectivement, qui fournit des quantités assez importantes de blé. On a de grands domaines agricoles, une province riche. On a plusieurs centaines de cités également qui sont développées dans cette province. Donc, effectivement, cela fournit un cadre propice à une activité intellectuelle, à l'apparition d'une élite sociale et culturelle également. Et donc, voilà, c'est aussi un cadre propice, hein, au développement de la pensée, des arts. On pense aussi au IIe siècle après Jésus-Christ, un auteur qui s'appelle Apulée, qui vient d'Afrique, hein, et donc cela témoigne aussi d'une vitalité intellectuelle et artistique. Et puis, on le voit aussi dans l'art, hein, avec... les riches mosaïques qu'on a découvertes, alors qu'on savait aujourd'hui au musée des Bardeaux, hein, à Tunis, ça montre vraiment qu'on a un épanouissement de la culture romaine dans ce territoire qui est un vrai relais de la romanité en quelque sorte.
Alors on va terminer par la Gaule, puisque nous y sommes, en Gaule. Là aussi, pas mal de légendes, notamment sur Vercingétorix. Alors dans la mythologie française, on présente toujours cette opposition entre César et Vercingétorix. Vercingétorix, sorte de premier résistant de la nation française. Or, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même plusieurs tribus gauloises qui sont alliées à César et on est plutôt sur une lutte inter-tribu qu'une lutte entre Gaulois et Romains.
Oui, alors avant que Rome n'arrive, parce qu'on imagine souvent une lutte très très manichéenne entre Romains et Gaulois d'un côté et de l'autre, les choses sont beaucoup plus nuancées puisque avant même que Rome n'arrive, alors Rome dans les années 120 avant Jésus-Christ prend pied déjà dans ce qu'on appelle la Gaule transalpine, ce qui devient ensuite la Narbonnaise, donc le sud de la Gaule, puis après reste donc la Gaule qu'on qualifie d'indépendante ou de Gaule chevelue. Donc là, c'est César effectivement qui mène la conquête, mais avant que César ne prenne pied en Gaule indépendante, notamment en territoire éduin, ce qui correspond à la Saône-et-Loire actuelle, il y a des relations étroites entre les Romains et certaines tribus gauloises. Et c'est le cas notamment des Éduins. Ils sont même qualifiés d'amis de peuple, hein, d'amis du peuple romain. Cicéron rencontre même hein, certains membres de ce peuple, même des druides d'ailleurs, hein, avec qui il devient assez proche. Donc on a des relations, voilà, des intérêts que Rome place hein, auprès de ces différentes tribus. Et donc durant la guerre des Gaules, effectivement, certains peuples, certains notables gaulois prennent fait et cause pour Rome. Alors il est vrai qu'ensuite, en 52 avant Jésus-Christ, le moment vers Vercingétorix, hein, avec évidemment le siège d'Alésia, marque l'union temporaire, hein, mais très temporaire, des peuples gaulois face à Rome. Mais n'oublions pas qu'avant que Rome n'arrive, ces peuples gaulois sont très souvent en guerre. Si on considère le peuple des Arvernes, par exemple, hein, c'était un peuple donc, établi en Auvergne actuelle, à peu près, et qui assez régulièrement exprimait des visées expansionnistes et belliqueuses envers les peuples voisins. Donc il ne faut pas imaginer hein, une nation gauloise des origines, puisque en réalité ce sont différents peuples. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce regard unificateur sur la Gaule au singulier, ce sont les Romains eux-mêmes qui le portent. C'est César, notamment dans les commentaires de la guerre des Gaules, qui tend à considérer, disons que les Romains aiment bien classer et que tout soit bien ordonné, c'est César qui tend à regrouper ces peuples en un ensemble. Mais finalement, ces peuples, même s'ils partagent des caractéristiques culturelles, linguistiques communes, au niveau politique, se sentent différents et chaque tribu se sent une entité à part entière.
Il y a eu récemment, enfin quelques jours, quelques semaines, selon le moment où l'émission est diffusée, la réouverture de la Maison Carrée à Nîmes, qui est un très beau bâtiment de l'époque romaine. Quelle était la fonction de ce bâtiment? C'était un bâtiment religieux?
Oui, alors ce temple qui a été inscrit à l'UNESCO hein, il y a quelques jours, donc c'était l'aboutissement d'un long dossier hein, et d'un long combat pour le faire. Il s'agissait en fait d'un temple associé à ce qu'on appelle donc le culte impérial. Aujourd'hui, les historiens parlent plutôt d'honneur religieux rendu aux empereurs, puisque culte impérial, c'est une expression en fait qui regroupe différentes formes de pratiques et de cultes hein, en l'honneur de l'empereur. Bref, en tout cas, c'est un temple qui a été érigé en la mémoire de Lucius et Caius César. Ce sont les petits-enfants d'Auguste, alors plus précisément les enfants que la fille d'Auguste, Julie, a eu avec Agrippa, donc gendre et ami d'Auguste, hein, le fameux Agrippa qui a aidé Octavien à remporter donc la bataille d'Actium. Et de leur vivant, ces deux jeunes princes étaient présupposés succéder à Auguste. Sauf que les deux meurent en 2 et 4 après Jésus-Christ. Donc évidemment, le plan de succession d'Auguste est contrecarré par ses décès prématurés. Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ et il doit ensuite se résoudre à adopter son beau-fils Tibère. Hein, bon, il n'apprécie pas trop, mais il n'a que ce candidat disponible. Et donc, une pratique se met en place déjà avec la mort de César, hein, qui consiste à diviniser les membres de la famille impériale qui décèdent, et puis après les empereurs eux-mêmes. Alors, diviniser, ça ne veut pas dire qu'on devient l'égal d'un dieu. On reçoit ce qu'on appelle l'apothéose, ou consecratio en latin. On est considéré alors comme divus, ce qui veut dire divin, ce qui marque une gradation par rapport au dieu deus, et donc cela permet malgré tout de recevoir des honneurs religieux, d'être considéré comme des êtres supérieurs, même si en dessous des dieux. Et donc, Lucius et Caius César s'inscrivent finalement dans cette famille divine, qui a été initié avec César et qui se poursuit ensuite avec d'autres empereurs et membres de la famille impériale julo-claudienne et puis d'autres dynasties ensuite. Et donc c'est intéressant, c'est que ce temple établi dans la colonie de Nîmes finalement permet de fédérer les habitants de la colonie autour évidemment de ces deux membres de la famille impériale et dont la jeunesse, hein, ils étaient surnommés les princes de la jeunesse, permet évidemment de susciter une forme d'adhésion et de fidélité, de loyauté envers Rome.
Une autre ville importante en France pour l'Empire romain, c'est Lyon. Il y a des restes assez importants, notamment un amphithéâtre. Quel était le rôle de Lyon dans l'Empire romain? Est-ce que c'était un rôle politique, un rôle commercial?
Alors, on qualifie souvent Lyon de capitale des Trois Gaules. Alors, c'est vrai en un sens, mais pas au plan politique en tout cas. Alors, Lyon est d'abord une capitale provinciale. C'est une colonie qui a été fondée en 43 avant Jésus-Christ, donc un an après la mort de César, hein, qui décède en 44, avec des vétérans de César qui sont implantés. Mais c'est une colonie qui n'a pas été fondée sur un lieu, évidemment, choisi totalement au hasard. C'est un lieu très stratégique, puisque on se trouve au croisement, évidemment, de la Rhône, du Rhône et de la Saône, et c'est un axe commercial tout à fait fondamental entre la Méditerranée, finalement, et puis bah, plus au nord, on a accès à la vallée du Rhin. Donc un axe tout à fait stratégique pour le commerce, ça c'est un premier point. Ensuite, sous le règne d'Auguste, Agrippa, qu'on a mentionné tout à l'heure, développe un réseau de routes de quatre grands axes, qu'on appelle la Via Agrippa, en direction de l'Atlantique, de la Manche, du Rhin et de la Narbonnaise, donc en direction du sud. Et donc, c'est vraiment un carrefour routier, commercial, tout à fait important. Et là, les inscriptions, l'épigraphie le montre assez bien, on a de grandes fortunes qui se fondent à Lyon, grâce au commerce du vin, par exemple, hein, on a des importateurs qui reçoivent des honneurs assez importants à Lyon et même dans des cités parfois assez éloignées. Une cité qui connaît une prospérité aussi en raison des attentions que les empereurs lui accordent. Par exemple, l'empereur Claude, qui est né à Lyon d'ailleurs, hein, permet aux notables des Trois Gaules d'accéder au Sénat romain, alors évidemment à condition d'avoir la citoyenneté. Et puis donc j'y viens, ce qui fait qu'on appelle cette ville capitale des Trois Gaules, si puisque sous le règne d'Auguste, est implanté un grand sanctuaire fédéral pour le culte impérial. Alors, techniquement, il n'est pas tout à fait sur le territoire de la colonie, il se trouve dans une agglomération à côté, mais aujourd'hui, c'est Lyon, c'est la Croix-Rousse, hein, qu'on appelle Condate à l'époque romaine. Et donc, c'est un sanctuaire qui, chaque année, au mois d'août, réunit des délégués qui viennent de la soixantaine de cités des Trois Gaules, qui se réunissent et qui accordent, en fait, les honneurs religieux dus à l'empereur et aux empereurs divinisés. Donc ça, c'est un premier point. Ça peut être considéré comme une instance politique, mais avec une très grande prudence, dans le sens où, dans cette grande assemblée interprovinciale, parce qu'il y a trois provinces, hein, la Lyonnaise, l'Aquitaine et la Belgique, les notables peuvent éventuellement s'adresser à l'empereur pour protester contre l'attitude peut-être abusive d'un gouverneur, ce qui est possible, hein, ce qui est rendu possible par le droit romain. Mais évidemment, il ne faut pas y voir, comme on a pu le voir parfois au XIXe siècle, l'ancêtre d'une éventuelle assemblée nationale, ce n'est pas du tout le cas. Donc en tout cas, une capitale interprovinciale sur le plan religieux, mais pas sur le plan politique. Alors, il est vrai que d'autres empereurs sont nés à Lyon, on a l'empereur Caracalla également. Un privilège important, Lyon possède également un atelier monétaire. C'est une des seules cités d'Occident outre Rome, hein, qui possède un atelier monétaire, donc ça aussi c'est un privilège. Ce qui fait aussi que la ville possède un détachement d'une cohorte d'hommes, une cohorte urbaine, qui évidemment a sans doute pour mission de protéger aussi cet atelier monétaire. Donc, elle retient quand même l'attention du pouvoir, qui lui accorde évidemment une place importante dans la hiérarchie des cités d'Occident. Mais après, au IIIe siècle, puisqu'en 197, la ville fait le mauvais choix, elle choisit l'adversaire de Septime Sévère, donc qui s'appelle Claudius Albinus, la ville est punie pour son mauvais choix, et on observe un déclin de la cité dans les décennies qui suivent la bataille.
Merci beaucoup, Dimitri Tillois d'Ambrosie, d'être venu nous avoir présenté les grandes lignes de l'Empire. C'était important, c'est aussi que l'Empire romain a une petite part maintenant dans les programmes scolaires, notamment en seconde. Il y a tellement de choses à faire que c'était un peu réduit, donc c'est important aussi d'y revenir et d'évoquer cet empire romain. Je mentionne votre ouvrage paru chez Perrin, La Rome antique, vérité et légende, dont les références sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.